Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Éclairage aujourd'hui dans cette émission s'intéresse à l'autisme et plus particulièrement à la découverte en décembre 2006 d'un nouveau gène responsable de cette pathologie. Avant de parler en détail de cette avancée dans le domaine de la recherche médicale avec la jeune chercheuse et auteure de cette découverte, Christelle Durand, quelques chiffres et définitions concernant l'autisme. Alors l'autisme est une pathologie qui résulte d'une anomalie du développement neurologique pendant la période de maturation du cerveau. Ce syndrome fait partie de ce qu'on appelle des TED, les troubles envahissants du développement. Il touche en moyenne une personne sur 1000 et en majorité des garçons, 4 garçons pour une fille. En France, on dénombre 100 000 autistes. La sévérité et la forme des troubles varient d'une personne à l'autre et cette atteinte peut être associée à d'autres handicaps. La déficience intellectuelle, les troubles sensoriels ou moteurs, les maladies génétiques, les épilepsies. L'autisme est un ensemble de symptômes spécifiques qui affectent trois domaines différents, à savoir la communication, les rapports sociaux et le comportement. Les chercheurs essaient de comprendre quels sont les dysfonctionnements génétiques à l'origine de l'autisme. Et cette maladie est ce qu'on appelle polygénique, c'est-à-dire que plusieurs gènes peuvent en être à l'origine. Ainsi, notre invité a découvert récemment que le chromosome 22 avait un rôle clé dans certaines formes de l'autisme et nous allons donc nous y intéresser en détail dans cette émission. Christelle Durand, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes généticienne, vous travaillez à l'Institut Pasteur dans le groupe de génétique humaine et fonctions cognitives. Très prochainement, vous allez travailler sur les neurones et Chang 3. Nous y reviendrons au cours de cette émission puisque nous allons longuement parler du gène Chang 3. Lors de la séance de l'Académie des sciences en juin 2007 consacrée aux grandes avancées françaises en biologie, vous avez présenté l'objet de vos recherches, à savoir gènes, synapses et autisme. Nous avons également reçu Cécile Frollet et Maëlle Carraz à Canal Académie pour une émission consacrée à leurs recherches différentes sur le paludisme et qui étaient également venues présenter leurs grandes avancées en biologie lors de cette séance de l'Académie des sciences. Mais revenons à votre domaine, Christelle Durand. On associe souvent l'autisme à la trisomie 21, mais c'est en fait une maladie polygénique.
En fait, le gros problème de l'autisme, c'est monogénique, polygénique. C'est la grande question qu'on se pose et qu'on se pose depuis des années et depuis qu'on a envisagé une génétique de l'autisme, on se pose cette question monogénique ou polygénique. Monogénique, c'est un seul gène, donc c'est ce qu'on voit très fréquemment dans le retard mental par exemple, un seul gène. Et polygénique, il y a deux formes de polygénisme, donc c'est soit un gène qui est différent d'un individu à l'autre, soit plusieurs gènes qui vont être responsables de la pathologie. Et c'est vrai que dans l'autisme, comme c'est un syndrome qui est complexe, on a très souvent pensé que ça pouvait être polygénique. Et en fait, avec les découvertes qu'on a faites jusqu'à présent, avec les neuroligines, Chang 3, et puis plus récemment un partenaire des neuroligines qui est la norexine, on a montré qu'il pouvait y avoir des formes monogéniques qui n'excluent pas, bien sûr, des effets modificateurs, etc., mais qui semblent être assez forts dans le cas de l'autisme, mais qui sont effectivement différents d'un individu à l'autre.
Comment vous êtes venu à découvrir le rôle clé d'un nouveau gène sur le chromosome 22 dans certaines formes de l'autisme? Comment vous êtes venu à travailler sur ce chromosome 22? Il y avait déjà des prédispositions pour travailler sur ce chromosome?
Alors en fait, il y avait deux arguments qui étaient assez majeurs. Premier argument, c'est qu'il y avait déjà des anomalies de la région 22, donc de l'extrémité du chromosome 22, qui avaient été décrites chez des patients qui avaient un retard mental, un retard de langage, voire une absence totale de langage, et chez certains patients, des traits autistiques. Donc il y avait ce premier argument, et le deuxième argument était que dans cette région du chromosome 22, il y avait le gène Chang 3, et en fait, ce gène, il va coder pour une protéine qui est partenaire des neuroligines. Et en 2003, on avait montré au laboratoire que les neuroligines étaient impliquées dans l'autisme. Donc ça donnait deux arguments très forts pour étudier le gène Chang 3.
Donc, Christelle Durand, en décembre 2006, est découvert et officiellement vous communiquez cette information sur ce chromosome 22. Je suppose que c'est un travail de longue haleine. Vous y avez travaillé pendant plusieurs années?
Oui, j'ai commencé février 2003.
Février 2003, donc pendant 3 ans, 4 ans
voilà,
à peu près.
Voilà, c'est ça, 3 ans, ouais, à peu près. En fait, les études génétiques, c'est très long. C'est-à-dire que la première étape consiste à étudier les patients. Et ensuite, lorsqu'on trouve quelque chose, il faut valider. Donc ça, c'est très long, en fait. Il faut être sûr que ce qu'on trouve est vraiment quelque chose, etc. Donc ça prend énormément de temps.
Justement, une précision. Vous me l'aviez indiqué en préparant cette émission. Vous êtes généticienne. Vous ne travaillez pas directement en lien avec les patients. C'était peut-être une précision à apporter.
Moi, non. Par contre, on a effectivement tout un groupe de psychiatres avec lesquels on travaille, qui nous apportent énormément d'informations sur les patients, etc. Nous, on travaille essentiellement sur l'ADN de ces patients, sans être complètement coupé non plus de la clinique, ce qui est très important de travailler effectivement tous en commun, psychiatre, généticien et moi, biologiste moléculaire, donc qui est beaucoup plus la technique.
Alors, si vous le voulez bien, nous allons remonter les grandes étapes phares. Comment on définit un gène candidat? Vous me l'avez déjà un peu expliqué, mais peut-être plus en détail. On parle de gène candidat positionnel et de gène candidat fonctionnel. Peut-être que vous allez pouvoir nous donner quelques détails et puis après, nous allons avancer, remonter le temps jusqu'à cette découverte en 2006. Alors, tout d'abord, gène candidat positionnel et gène candidat fonctionnel. Quelles sont les différences?
Alors, le gène candidat positionnel, c'est sa position sur les chromosomes, où il est localisé. La position, soit elle est intéressante parce qu'elle est en fait à un endroit qui a été montré en liaison avec l'autisme, donc c'est-à-dire qu'il y a une analyse en fait des frères et sœurs qui sont atteints tous les deux, et de regarder quelles sont les régions du chromosome qu'ils ont en commun. Et on suppose que si ces régions sont en commun chez deux enfants atteints, cette région possède un gène candidat. Ensuite, il y a les associations. Donc, c'est-à-dire, là, par contre, on focalise sur un gène et on regarde s'il est plus fréquent dans la population contrôle ou dans la population des patients. Et il y a aussi la position par rapport à toutes les anomalies chromosomiques qu'on connaît dans l'autisme, ce qui a été le cas de Chang 3 et du chromosome 22. Donc, s'il y a des anomalies décrites dans la région, on suppose qu'un gène est localisé dans cette région.
Donc, ça, c'est pour le gène candidat positionnel.
Voilà.
Alors maintenant, le gène candidat fonctionnel.
Donc fonctionnel, j'ai vu que vous aviez parlé donc de la sérotonine, effectivement, oui. Qui peut être un gène candidat fonctionnel, c'est-à-dire que sur des données biochimiques, on a pu montrer qu'il y avait effectivement des taux élevés de sérotonine, donc on va aller s'orienter vers des gènes qui vont coder dans cette voie-là de la sérotonine. Sinon, nous, par exemple, dans le cas de Chang 3, on s'est focalisé sur la synapse, donc c'est-à-dire sur les partenaires des neuroligines. Donc comme Chang 3 était un partenaire des neuroligines, était un bon candidat fonctionnel.
Alors, une fois qu'on a délimité ces zones intéressantes, quel va être le travail du généticien?
Ça va être d'avoir le maximum d'arguments, donc positionnels, fonctionnels, pour focaliser sur un gène candidat et ensuite de l'étudier, donc c'est-à-dire de regarder sa composition en base A, T, G et C, voir si elle est différente chez un patient et chez un contrôle.
Et chez un contrôle, donc un contrôle, en fait, c'est une personne saine, entre guillemets?
C'est-à-dire des personnes sans troubles psychiatriques.
Le chromosome 22 est à l'origine de plusieurs maladies. Ce sont des leucodystrophies, par exemple. Ce sont des neurofibromatoses, ce qui correspond à la surdité et des troubles de l'équilibre, et les cardiopathies. Alors, vous me faites une tête un peu particulière.
C'est-à-dire que moi, j'ai été plus concentrée sur la région vraiment du bout du chromosome, qui est la région 22Q13, qui est une région qui a été montrée lorsqu'elle est absente, enfin, c'est-à-dire qu'on a deux chromosomes, et lorsqu'elle est absente sur un des deux chromosomes, on a vraiment un syndrome très particulier qui est retard mental, retard de langage et hypotonie et des traits autistiques dans certains cas. Donc moi, je me suis vachement concentrée sur cette
région-là. Christelle Durand, à l'instant, donc vous parliez de cette zone 22Q13 et de gènes, donc cette zone qui manque sur un des deux chromosomes et qui provoque l'autisme. Ça signifie donc que ce gène est dominant, puisqu'on peut parler de gène récessif, c'est-à-dire qu'il en faut deux pour déclencher une maladie ou un trouble. Et dominant, ça veut dire qu'on a besoin que d'un seul gène. Alors, est-ce que ça signifie que c'est un gène dominant?
Oui et non. C'est-à-dire que les arguments pour l'instant sont effectivement en faveur d'un dominant, qui serait donc par haploinsuffisance, qui serait qu'une seule copie ne suffit pas. Il en faut deux pour ne pas avoir de pathologie. Mais donc moi, dans mon étude, j'ai effectivement étudié les deux chromosomes et je n'ai trouvé que sur un chromosome et je ne trouve rien sur l'autre. Mais ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir quelque chose sur l'autre chromosome qu'on n'ait pas vu.
Mais comment va se passer la transmission entre parents et enfants? Parce que ça veut bien dire que les parents transmettent un gène malade sans que pour autant eux soient malades.
Pour l'instant, dans le cas des anomalies du chromosome 22 et des anomalies de Chang 3, ça a toujours été ce qu'on dit de novo, c'est-à-dire que c'est absent chez les parents. Les mutations se sont produites au moment de la fécondation. Donc les parents n'ont aucune anomalie du gène, juste les enfants, dû à une anomalie au moment de la fécondation. En revanche, il peut y avoir ce qu'on pourrait appeler un élément modificateur qui pourrait être transmis par les parents qui n'auraient pas de phénotype, parce qu'il serait pas suffisant pour donner quelque chose, mais en association avec une anomalie du chromosome 22 ou de Chang 3 pourrait... En fait, le problème qu'il y a, c'est que on a le gros souci en génétique de quand on dit voilà, c'est le gène qui est responsable. On a toujours les généticiens qui vont nous dire vous ne pouvez pas exclure le fait qu'il y ait d'autres éléments dans le génome parce qu'on a énormément de gènes et donc il peut y avoir des facteurs sur d'autres gènes qui vont un petit peu modifier en fait l'effet d'un gène. Donc le problème qu'on a qui est sur l'autisme, qui est un syndrome tellement complexe, c'est qu'on n'arrive pas à croire qu'un seul gène puisse donner effectivement l'autisme.
Comment on explique le fait qu'il y ait plus de garçons touchés que les filles par l'autisme? Est-ce que c'est une question de génétique ou est-ce que justement c'est encore une question que les généticiens se posent?
Ça a été une question qui s'est longtemps posée, qui se pose toujours. Pourquoi y a-t-il plus de garçons que de filles? Tout d'abord, on peut en tant que généticien se demander s'il n'y a pas un gène sur le chromosome X, puisque les garçons n'ont qu'un seul chromosome X de leur mère et un chromosome Y de leur père, et les filles ont deux chromosomes X, donc seraient protégées par le chromosome X normal. Donc ça a été un des arguments qui a été utilisé pour commencer la génétique de l'autisme, et c'est comme ça qu'on a identifié les neuroligines qui sont localisées sur le chromosome X. Cependant, les résultats obtenus sur les neuroligines ne suffisent pas à expliquer cette différence de 4 garçons pour une fille, qui d'ailleurs peut monter à 23 garçons pour une fille lorsqu'il n'y a aucune anomalie physique et aucune anomalie de l'IRM. Donc il y a eu des arguments qui ont été aussi des hormones. On peut supposer l'implication des hormones sur la pathologie. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas de réponse en fait à cette différence entre les garçons et les filles.
Est-ce qu'une anomalie du chromosome X va être, comment dire, non existante parce que le deuxième chromosome X de la fille va essayer de compléter et donc du coup la fille ne sera pas autiste entre guillemets? Et est-ce que justement le fait qu'il y ait un chromosome X malade et un chromosome Y qui soit pas malade mais qui ne remplace pas le premier chromosome X joue...
C'est justement ce qui a été observé dans le cas des neuroligines où... Les garçons ont un chromosome X avec une altération du gène des neuroligines et un chromosome Y qui n'a pas la neuroligine.
Mais ceci n'explique pas tout.
Non. Donc pour l'instant, il y a énormément de recherches qui essayent de comprendre cette différence, de voir si c'est sur le chromosome X ou si c'est d'autres facteurs qui peuvent...
Alors je vous propose de marquer une première courte pause, Christelle Durand, et on se retrouve tout de suite après pour parler d'un deuxième travail sur le chromosome Y cette fois-ci et le travail sur la mélatonine. À tout de suite.
See it on the ground.
suite de notre émission Éclairage en compagnie de Christelle Durand, généticienne à l'Institut Pasteur et qui a mis en valeur le rôle de l'altération sur le chromosome 22 du gène SHANK3 et les altérations qui sont donc porteurs d'un retard mental associé à des troubles du langage. Et c'est justement dans cette deuxième partie que nous allons pouvoir parler plus en détail. Et seulement après, nous parlerons du travail sur le chromosome Y et de la mélatonine. Alors Christelle Durand, parlons effectivement plus en détail de cette zone SHANK3 qui se trouve sur le chromosome 22. C'était donc l'objet de vos recherches que vous avez d'ailleurs présentées à l'Académie des sciences au mois de juin 2007 lors d'une journée consacrée justement aux grandes avancées françaises en biologie. Alors quelles ont été vos découvertes sur ce gène SHANK3, Christelle Durand?
Donc comme on a dit précédemment, il y avait effectivement des anomalies de cette région du chromosome 22, sauf que les soupçons étaient pour le gène SHANK3, puisqu'il en fait code une protéine qui est impliquée dans les synapses, en fait, dans la structure des synapses, qui sont la communication entre les neurones. Donc quand moi j'ai commencé mon travail, les soupçons était sur ce gène, mais on n'avait pas eu de preuves majeures que c'était ce gène qui était responsable, effectivement, des caractéristiques cliniques des anomalies du chromosome 22. Et donc, j'ai effectivement analysé ce gène chez environ 230 patients avec autisme. Et j'ai pu identifier donc trois familles, dont une première famille chez un garçon avec autisme et sans langage, qui avait une perte donc de cette région du chromosome 22. Ensuite, j'ai identifié une deuxième famille avec deux frères, en fait, qui avaient une mutation dans le gène SHANK3 qui altère la fonction de la protéine. Donc la protéine qui est produite est finalement réduite, beaucoup plus courte, et ne peut pas jouer sa fonction normale. Et ce qui était très intéressant, c'est que ces deux frères avait la mutation et aucun des deux parents donc était porteur de cette mutation.
Ce qu'on expliquait justement avant la pause.
Donc ce qui est très intéressant en génétique, et en plus il y avait un frère qui était donc un frère non atteint qui n'a pas non plus cette mutation.
Donc trois frères au total alors.
Donc c'est trois enfants, deux qui sont donc atteints d'autisme, qui ont la mutation, et le troisième qui ne l'avait pas.
Et la troisième famille?
Et une troisième famille qui était aussi très intéressante, qui est donc une fille avec une anomalie de la région du 22, avec une perte en fait de cette région 22Q13, et son frère qui lui au contraire avait trois copies de la région du chromosome 22 avec le gène SHANK3. Donc cette fille a un autisme, retard mental et retard de langage, donc caractéristique clinique des anomalies du chromosome 22, et son frère en revanche qui avait trois copies a un syndrome d'Asperger. Et donc c'était très intéressant de voir effectivement une clinique différente avec une copie et trois copies, donc qui montre que finalement la quantité de gènes était très importante, ce gène est très importante finalement pour l'établissement des fonctions cognitives.
Et pourtant le syndrome d'Asperger n'est pas synonyme d'une trisomie d'un chromosome ou d'un autre?
Non. Donc là, c'est pas une trisomie comme dans le cas de la trisomie 21, c'est une trisomie partielle d'une région du chromosome 22 uniquement, qui contient le gène SHANK3.
Peut-être pourriez-vous nous rappeler ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger?
Donc le syndrome d'Asperger, c'est comme dans l'autisme, des troubles de l'interaction sociale, des stéréotypies, un QI normal et un langage normal.
Et donc, comme vous le disiez avant cette pause, c'est de la même manière une altération qui arrive lors de la fécondation.
Voilà. Donc la deuxième famille que je décris, effectivement, c'est arrivé donc dans les gamètes parentaux. Donc juste pour conclure sur le travail donc qui a été fait sur les neuroligines et sur SHANK3, effectivement, on montre avec ces deux gènes qu'il y a effectivement une altération probablement de la formation des synapses.
Et ces découvertes alors pour les familles après, on pense souvent aux applications, alors je sais bien que ce n'est pas votre domaine, simplement le fait de savoir qu'il peut y avoir une altération qui arrive au moment de la fécondation, quelles sont les applications concrètes de cette découverte, s'il y en a une?
De la découverte des gènes ou
de la découverte de cette altération du gène SHANK3 par exemple?
Ça permet pour l'instant d'identifier finalement une voie qui serait impliquée dans l'autisme avec les neuroligines, SHANK3, les neurexines. Donc on commence un petit peu mieux à comprendre ce qui peut se passer et donc qui pourra certainement par la suite apporter plus d'informations et peut-être un jour envisager quelque chose.
Ces recherches sur ces gènes SHANK3, puisque c'est votre domaine, est-ce qu'elles se sont arrêtées ou est-ce qu'on poursuit encore de nouvelles recherches dessus?
Oui, au laboratoire, on continue donc à effectivement chercher des mutations dans ce gène chez les patients. Des études également ont été faites aux États-Unis qui ont montré effectivement une mutation aussi chez un patient avec autisme, une mutation dans le gène SHANK3 qui de la même manière était arrivée uniquement chez l'enfant et n'est pas retrouvée chez les parents. Donc ces études sont poursuivies dans les autres laboratoires pour identifier d'autres patients avec des mutations dans le gène SHANK3.
Et cette mutation ou cette altération du gène SHANK3 provoque uniquement, entre guillemets, ne provoque que de l'autisme ou pourrait aussi être à l'origine de plusieurs autres maladies identifiées? Vous ne le savez pas encore?
Non, je pense que les anomalies du chromosome 22 contenant donc le gène SHANK3 montrent un retard mental, un retard de langage et une hypotonie. Donc c'est très caractéristique et c'est retrouvé chez quasiment tous les patients avec cette anomalie. Donc effectivement, certains cas avec anomalie du chromosome 22 ont des traits autistiques ou sont autistes. Donc on peut effectivement supposer que le gène SHANK3 pourrait également être impliqué dans le retard mental uniquement sans autisme, ou éventuellement envisager dans le retard de langage ou dans les troubles du langage, ce qui pourrait être une étude intéressante aussi pour voir que les altérations du gène SHANK3 vont donner autisme, retard mental, retard de langage et quelle est la spécificité de ces altérations dans ces différents troubles.
Avant la pause, nous avions parlé du chromosome X sur lequel on sait maintenant quelques petites choses. Il y a aussi le chromosome Y qui lui aussi peut, lorsqu'il y a altération, provoquer et être à l'origine de l'autisme. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce chromosome Y?
Alors en fait, l'étude que nous avons réalisée est pas uniquement sur le chromosome Y, c'est sur la région qu'on appelle la région pseudo-autosomique, c'est-à-dire c'est une région du chromosome Y et du chromosome X qui se ressemblent. C'est-à-dire que c'est la seule partie des chromosomes sexuels qui se ressemblent en fait. Donc dans les autres chromosomes, on a toujours deux chromosomes, sauf dans le cas du X et du Y, où on a deux chromosomes différents, X, Y, sauf dans cette région qu'on appelle la région pseudo-autosomique.
Des altérations avaient déjà été observées justement sur cette zone-là quand vous êtes attelé à cette étude?
Oui, il y avait des régions, donc il y avait des altérations qui avaient été, comme dans le cas de la région 22, une perte d'une des deux copies chez des enfants avec autisme.
Revenons à cette zone autosomique ou pseudo-autosomique, comme vous venez de
l'indiquer. Voilà, pseudo-autosomique.
Pseudo-autosomique. Qu'est-ce qu'elle fait à l'origine, cette zone? Elle travaille sur la mélatonine?
Non, en fait, ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait un gène dans cette région, qui est le gène ASMT, qui, en fait, code l'enzyme qui va permettre la production de la mélatonine.
Quand il y a une altération de cette mélatonine, donc la mélatonine, c'est ce qui régule notre rythme, en fait, tout simplement.
Voilà, c'est ce qui régule le jour et la nuit, enfin... La mélatonine doit jouer un rôle effectivement sur les rythmes et en fait elle permet de recadrer l'heure de veille et sommeil.
Par exemple, un autiste ou quelqu'un qui aura des syndromes liés à l'autisme aura plus facilement des troubles du sommeil par exemple, c'est quelque chose qui est observé?
Oui, c'est observé. Il y a des enfants qui ont effectivement des troubles du sommeil. Donc pour l'instant, nous, ce qu'on a montré, c'est qu'effectivement, il y a plus de la moitié des enfants qui ont un taux bas de mélatonine. Et donc, on a étudié effectivement cette enzyme ASMT qui était dans cette région pseudo-autosomique, donc qui était très intéressante puisque des altérations avaient été montrées et qui codait justement l'enzyme qui va permettre la formation de la mélatonine. Donc, on s'est concentré sur cette enzyme et on a pu montrer qu'effectivement, il y avait un défaut de l'activité de cette enzyme chez les enfants qui expliquait ce taux bas de mélatonine. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'études entre le déficit de mélatonine qu'on observe chez nos patients et les déficits de sommeil qui sont retrouvés chez les patients avec autisme. Il n'y a pas encore eu de corrélation entre les deux, mais c'est en projet effectivement de voir ce lien entre la mélatonine et les défauts de sommeil. Il y a eu également des études qui ont montré sur un faible échantillon que la mélatonine pouvait effectivement améliorer le quotidien de ces enfants, mais pour l'instant c'est encore très préliminaire et des études supplémentaires seront nécessaires pour effectivement confirmer le rôle de la mélatonine et ce qu'elle peut apporter à ces enfants.
En fait. Et alors je suppose qu'il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'on a un faible taux de mélatonine qu'on est autiste.
Non, puisque un taux faible a été également retrouvé chez les parents, donc... Pour l'instant, en fait, on suppose que la mélatonine peut être effectivement un élément modificateur. En fait, le souci, c'est qu'on n'est pas parti du sommeil pour arriver à la mélatonine. C'est effectivement ce qu'on observe, mais on n'a pas choisi des patients qui avaient des troubles du sommeil. On a regardé nos patients et on a observé qu'effectivement, il y avait un déficit de mélatonine qui pouvait expliquer ce problème de sommeil qu'on observe chez les autistes. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas fait d'études sur le sommeil, mais c'est en projet.
Christelle Durand, pour terminer cette émission, donc on a bien compris, vous travaillez sur les gènes synapses et autisme, et donc vous avez mis en valeur ce gène SHANK3 qui est responsable d'altération à l'origine de l'autisme. Maintenant, vous allez travailler, c'est la suite logique, hein, sur l'étude des neurones et encore plus spécifiquement de SHANK3. Quelles vont être vos études dans les mois à venir?
Donc en fait, maintenant qu'on a effectivement montré les altérations génétiques de ce gène SHANK3, moi, mon travail sera maintenant d'essayer de comprendre sur les neurones quel est l'effet de ces mutations et par exemple sur la formation de ces synapses, essayer de comprendre comment les mutations altèrent finalement la formation de ces synapses, donc en étudiant les protéines qui sont impliquées donc dans la formation de ces synapses.
Comment ces informations finalement altérées vont être communiquées?
Comment la protéine qui est produite avec ces altérations, la protéine va porter ces altérations, et donc quelle va être sa fonction? Parce qu'en fait, on a déjà montré qu'elle avait une mauvaise localisation au niveau des neurones, par exemple. Donc, comment cette mauvaise localisation de cette protéine va modifier finalement la formation des synapses et les connexions entre les différents neurones.
Donc ça, je suppose que c'est un laboratoire spécifique dans lequel vous allez pouvoir réaliser ces
études. Voilà, c'est un laboratoire de neurosciences qui travaille essentiellement sur les neurones et les protéines qui sont impliquées dans la formation des synapses.
De ce fait, en travaillant dans ce laboratoire plus spécifiquement sur les neurones, même si vous travaillez toujours sur SHANK3, vous allez vous éloigner un peu de l'autisme.
Un peu, oui. Je vais finalement essayer de comprendre dans les neurones quel est le rôle de SHANK3 et quelle est l'implication de ces mutations dans la formation des synapses, dans les connexions neuronales. Donc c'est du travail un peu plus fonctionnel au point de vue des neurones. Donc on s'éloigne un petit peu de l'autisme, mais je vais quand même étudier les mutations qui ont été identifiées dans l'autisme ou dans le retard mental.
Oui, puisque vous restez quand même sur SHANK3, qui est synonyme souvent en fait donc de retard mental, comme vous nous l'expliquiez, ou également donc retard de langage. Donc vous restez dans des domaines apparentés, on va dire, de l'autisme.
Je reste sur ces pathologies, puisque oui, je vais travailler sur des mutations qui ont été décrites dans ces pathologies, mais sur un domaine beaucoup plus fonctionnel, essayer de comprendre vraiment au point de vue neurones et connexions neuronales.
Eh bien, merci Christelle Durand d'être venue nous rendre visite. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes venue présenter en juin 2007 vos travaux à l'Académie des sciences face aux académiciens des sciences qui, d'ailleurs, vous ont écouté religieusement lors de votre présentation. C'était donc une séance qui était dédiée et consacrée aux grandes avancées françaises en biologie, et donc vous avez pu parler de cette découverte que vous avez menée sur l'altération du gène SHANK3 sur le chromosome 22. J'invite également nos auditeurs à écouter les deux autres intervenants qui vous ont succédé lors de cette journée. Vous étiez 6 au total, il me semble. Nous avons pu recevoir deux autres invités ici à Canal Academy, Cécile Fourlet et Maëlle Carraz. Je vous invite à écouter cette émission consacrée au paludisme, puisque ces deux personnes travaillent sur le paludisme, travaillaient en tout cas, puisque maintenant elles ont aussi bifurqué un peu dans leurs travaux. Et puis je vous invite bien sûr à télécharger toutes les émissions éclairage en ligne sur Canal Academy. Merci Christelle Durand.
Merci.
Et puis, on vous souhaite bon courage pour ces recherches maintenant consacrées aux neurones et plus spécifiquement à SHANK3. Merci beaucoup, au revoir.
Merci, au revoir.